Je reprends sur, donc sur cette question, vous voyez, où l'homme est le seul animal à avoir, et donc prétendre affirmer un être en dehors de tout avoir, c'est ce que je vous avais dit au début, ça va être livrer l'avoir à un domaine séparé de l'être, et dès lors, on va arriver au désastre contemporain. Parce qu'on a toujours quelque chose, vous voyez, l'habitus. Vous avez vu, le mot qui est employé en latin pour dire l'avoir, c'est habitus. À partir de ce mot-là, vous pouvez réfléchir déjà à les deux premiers avoirs de l'homme. C'est quoi ? L'habit et l'habitat, voilà. Alors bien sûr, mais la langue, justement, est-ce que c'est un avoir ? Ça, c'est une vraie question. Elle est, comme elle touche vraiment au logos en lui-même, alors on pourra dire qu'il y a un aspect de la langue qui relève de l'avoir, puisque c'est quelque chose qui relève d'un faire. Il y a différentes langues nationales, avec leur génie propre, avec leur constitution propre, mais en même temps, vous voyez, c'est vraiment très substantiel aussi que l'exercice du logos. Vous voyez ? Bon. Mais c'est... La langue est la première tradition. Même dans un monde qui vous prétendrait rompre avec toute tradition, eh bien, la chose qui est connue par tradition, premièrement, c'est la langue, qui est langue maternelle, qui est ce que l'on apprend au berceau en entendant nos parents parler. Et c'est vrai que c'est le mode traditionnel, enfin, de transmission, se joue toujours dans la langue. Et c'est pour ça que Ivan Illich critiquait beaucoup l'idée d'une langue qui serait transmise uniquement par des institutions, voire même scolaires. Il disait que la langue est précisément le lieu d'une transmission qu'il appelle vernaculaire, qui se fait au sein de la famille et qui permet justement à la famille d'exister comme contre-pouvoir par rapport à l'État aussi. Et qu'une trop grande institutionnalisation où la langue serait simplement le domaine des experts, des grammairiens, des pédagogues qui vous enseignent la vraie pureté de la langue, il y a un danger. Vous voyez, c'est parce que c'est la dernière tradition et c'est à partir de là qu'on peut peut-être redéployer une vision plus traditionnelle plutôt qu'une vision tout le temps en rupture moderne. Mais la langue est une tradition. Non, premier avoir, c'est vrai, c'est la question de... Ah ben, le vêtement, l'habit. En tout cas, dans la Bible, c'est ce qui est mis en avant. Vous voyez, juste après la chute... Le premier avoir, soit fabriqué par l'homme, je vous l'avais dit, et donc il y a une ambivalence du vêtement, soit fabriqué par l'homme, soit fabriqué par Dieu. Il y a deux récits dans la Bible. Premièrement, après la chute, on a honte d'être nu, on se cache, puis Dieu, lui, va fabriquer avec des feuilles de figuier des vêtements pour l'homme, deuxième version de l'habillement. Avec donc cette ambiguïté déjà, il y a un avoir qui peut devenir faux, qui est de l'ordre de l'hypocrisie, de la dissimulation, de la surcharge, du refus de la vérité d'une certaine pauvreté, une certaine nudité. Et puis, il y a un avoir qui est bon, un avoir du vêtement qui est bon. Mais, vous voyez, imaginez quelqu'un qui dirait « il faut vivre dans la pauvreté, il faut vivre dans l'être sans avoir », ben, ça veut dire qu'il devrait vivre à poil, sans aucune... sans outils, sans rien, c'est pas possible. Je vous l'avais déjà dit en début d'année, le naturisme est complètement artificiel. C'est un artificialisme total. Non seulement, je vous l'avais dit, ce sont des vieux directeurs commerciaux d'entreprises germaniques accablés d'artefacts qui rêvent de retrouver sur des plages tout nus, se retrouver tout nus, voilà. Mais après, la catastrophe, c'est qu'après, ils font même des supermarchés naturistes, c'est quand même le comble, quoi. Ils sont tout nus à pousser des caddies. Et c'est ridicule. Et vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne marche pas. L'homme, naturellement, le vrai naturisme, je vous l'avais dit, c'est le vêtement. Ça fait partie de l'avoir humain. Il faut porter un vêtement. Il est naturel à l'homme d'avoir. Il est dans l'être de l'homme d'avoir et donc d'avoir des vêtements. Et le vêtement, comme un avoir vraiment fondamental, et il faut réfléchir hein, sur... Et aujourd'hui, on a livré ça au prêt-à-porter, on s'en moque. On s'habille avec n'importe quoi qu'on trouve sur le marché. On ne réfléchit pas à qu'est-ce que c'est qu'avoir un vêtement. Donc, quel est l'équilibre, vous voyez, entre l'avoir et l'être? Parce que l'avoir doit être une épiphanie de l'être et doit permettre aussi l'avoir que j'ai à être vraiment ce que je suis. Donc, à la fois manifester ce que je suis, mais en même temps, l'être davantage, moi-même. Donc, qu'est-ce que va faire le vêtement? Il y a deux choses. D'abord, vous savez, c'est un avoir fondamental, je vous l'ai dit. Il doit, ça c'est une remarque que fait par exemple Hegel dans son esthétique, il dit, le vêtement va mettre en valeur les parties les plus spécifiques à l'homme, ou celles qui manifestent le plus son être, en tant qu'il est un être aussi rationnel. Donc qu'est-ce que va mettre en valeur le vêtement ? Voilà, vous n'avez qu'à voir les parties de mon corps que j'ai laissées nues, à savoir mon visage et mes mains. J'ai pas la braguette ouverte, non. Non, ça m'arrive, alors la chenille, bon. Donc, mon visage et mes mains, parce que... C'est le visage, c'est partie du visage. Ouais, le visage a besoin d'un cadre. Certains portent une guimpe, voilà. Vous avez le visage et les mains, ça signifie que, bien sûr, je pourrais montrer mes genoux, comme font certaines, ou certains, mais on ne sait pas pourquoi le short n'a jamais été le vêtement habituel du professeur. Ce qui montre bien d'ailleurs que ce n'est pas le lieu le plus expressif, vous voyez, dans la transmission du savoir, de montrer ses genoux, bon, ou ses mollets. Mais parce que le lieu vraiment par où se manifeste l'intériorité, et donc le lieu d'expression majeure de la parole, c'est le visage et les mains. Nous parlons avec nos mains, nous exprimons avec notre visage. Et donc ça sert, en réalité, c'est le vêtement permet la dénudation de l'âme. On voile une partie du corps pour dénuder l'âme. Je dis toujours, d'ailleurs... quel est l'être humain le plus nu, vestimentairement, c'est la religieuse. Parce que la religieuse, justement, cache le reste et met vraiment en évidence son visage et ses mains. Vous voyez ? En revanche, le voile intégral, la burqa, non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça, on a devant nous quelque chose qui ressemble à un spectre. Un fantôme, quoi. C'est vrai, je me suis dit, ça veut dire que quand les enfants ils jouent au fantôme, ils mettent des grands draps comme ça. C'est un habit où on joue tout le temps au fantôme. Et vous êtes en plus, et c'est ambigu parce que, vous savez, souvent on dit, oui, c'est une manière de résister au monde contemporain, au fait que les femmes deviennent des objets sexuels, etc. Et c'est vrai qu'on résiste à certaines formes vestimentaires qui sont obscènes, je veux bien. Mais de l'autre côté, on est à fond dans le monde contemporain avec la burqa. D'après vous, pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que c'est très, très post-moderne, la burqa ?
Parce que du coup, on ne devient pas un objet sexuel, mais juste un objet.
Alors, on devient un objet, éventuellement, ça c'est une bonne remarque, mais c'est surtout qu'on est en position de spectateur. On voit sans être vu. Donc, on entre dans le monde comme quand on est devant sa télévision. C'est très curieux. Et ne croyez pas, parce qu'on pourrait dire la burqa, c'est un truc traditionnel musulman, c'est pas vrai, hein, ça n'existe pas à l'époque du prophète, ni des premiers temps de l'islam, qui est apparu bien plus tard. Mais aujourd'hui, s'il y a une reviviscence de ça, c'est pas simplement par réaction à la mini-jupe, c'est aussi parce qu'on est en position de spectateur, de voyeur. Et je vois, on ne me voit pas. Il y a une sorte de voyeurisme. Et c'est pour ça que c'est très, très contemporain, contrairement à ce qu'on croit. Donc, j'ai pu écrire, par exemple, que le voile de la religieuse était la mini-jupe du visage, pour montrer que, voilà, on met en avant le visage et les mains, et donc on se dénude. En revanche, quand quelqu'un ne veut pas être vu, veut faire même oublier qu'il a une âme, eh bien, la femme va présenter sa poitrine, ses jambes, et puis elle va se mettre toute nue. Alors là, c'est sûr que l'homme voit beaucoup moins son visage. Et en fait, ça, c'est un voile. Et l'obscénité est elle-même un voile parce qu'on a peur d'exposer son intériorité. Et vous vous mettez à poil, bah forcément, on ne va plus tellement écouter ce que vous dites. Vous n'avez plus besoin, d'ailleurs, surtout la force de la nudité féminine par rapport à l'homme. Elle n'a plus rien à lui dire, elle n'a pas à lui parler. Vous voyez, tout de suite, l'homme, il est fou. Il lui arrive un truc, ça se passe de tout discours. Mais justement, à cause de ça, vous voyez, c'est un voile, c'est un refus de dévoiler l'intériorité. Donc, vous voyez, il y a une remarque très profonde quant aux vêtements, c'est que d'abord, le vêtement, en raison de la nature humaine qui est une nature rationnelle, mais aussi en raison, et ça je ne veux pas vous en parler trop, mais de quelque chose qui est déréglé en nous, qui fait que nous sommes incapables de vivre la nudité pour ce qu'elle est, depuis le péché originel, eh bien, le vêtement est là comme ce qui permet le dévoilement de notre être. Qui est l'épiphanie d'un être de parole. Donc c'est vraiment un point fondamental, ça. Et puis, il y a autre chose qui existe dans le vêtement, c'est le fait que, et ça, c'est la vérité de tout accident. Tout accident, hein, vous savez, on avait vu les 10 catégories, il y a substance, puis il y a 9 prédicaments, 9 accidents. C'est que l'accident doit exprimer la substance. Donc, l'autre chose, c'est que le vêtement doit manifester ce que vous êtes. Pas en tant qu'homme, mais aussi en tant que personne particulière. C'est pour cela que, au Moyen-Âge, chaque métier avait son vêtement. Les gens sortaient dans la rue, on savait quel était leur métier. Voire même, c'est même chaque classe sociale. Et donc, il y a quand même l'idée qu'il faut... Alors, bon, bien sûr, on pourrait dire aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce n'est plus du tout. On est dans le prêt-à-porter, tout le monde s'habille à peu près pareil. On essaye de bidouiller comme on peut avec cette proposition qui nous est faite. Mais on a rarement... vous voyez, on trouve rarement des vêtements qui sont conformes. Bon, c'est vrai que les professeurs de philosophie portent souvent des vêtements en velours à grosses côtes. Alors, aujourd'hui, je n'en ai pas, mais c'est assez exceptionnel, je dois dire. Peut-être en raison de nos hôtes ici présents, mais enfin, voilà, c'est typique du... avec, je pense à un aspect, c'est le philosophe un peu de gauche, ou le philosophe qui a honte d'être aussi intellectuel alors qu'il veut porter les vêtements du charpentier, vous voyez. Il dit, non mais quand même, comme le logo c'était charpentier, vous voyez, donc il faudrait quand même que même si je suis l'homme du logos, que je m'habille en charpentier. Alors ah, bon, ça c'est typique. Mais en général, c'est vrai qu'on est dans un monde où le vêtement nous renvoie à une sorte d'indistinction et plutôt à des formes d'appartenance qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes vraiment, mais plutôt, voilà, j'appartiens à tel groupe, je suis à la mode, je montre ceci, ça. Mais des effets de mode, des effets de société, mais qui n'ont rien à voir avec vraiment la manifestation de ce que nous sommes. Alors, par exemple, à partir de ce que je viens de vous dire, vous pouvez comprendre pourquoi le prêtre... doit avoir un vêtement spécifique. Parce que le sacrement de l'ordre étant un sacrement qui met un caractère dans l'âme, ben, sa substance est modifiée. Donc, il doit porter un vêtement qui manifeste la modification de cette substance. Ça fait partie de l'avoir. Et si on oublie ça, ben, voilà, on arrive à une sorte d'indistinction généralisée. Et on se met à suivre la mode. Au nom du levain dans la pâte, mais on n'est même plus levain, quoi. On est dans la pâte, quoi. Pâte dans la pâte. Et c'est un point très, très important. Ça ne veut pas dire... Hein, vous savez que les normes romaines, c'est le clergyman. Hein. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la soutane ici, nécessairement, même si j'aime bien la soutane. Parce que c'est une robe. Et parce que ça montre que l'Église est finalement très très libre et quand elle attaque les théories du gender, en fait, c'est parce qu'elle est très fantaisiste, qu'elle a un pape qui s'habille en robe, qu'elle veut permettre la fantaisie. Le gender, c'est trop sérieux, les gens, ils s'identifient à leur truc, vous voyez, ils se disent « oui, je suis ceci, je suis bi, je suis tri, je suis... » Et en fait, c'est pas... Alors que nous, ce qu'on défend, c'est le fait qu'on puisse avoir des vêtements. Regardez, un pape, regardez les vêtements des prélats. C'est d'une fantaisie incroyable. Pardon ? La garde suisse, extraordinaire, extraordinaire. Il n'y a guère que des clowns qui ont encore autant de couleurs parfois sur leur... Et quand... Bon, moi, j'ai un reproche à faire au pape François, c'est vrai. L'unique reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il a abandonné les chaussures rouges. Les chaussures rouges, c'était incroyable. Moi, je me souviens, une audience de Benoît XVI, on voit Benoît XVI, il s'assoit et il a les deux chaussures rouges qui sortent de l'aube blanche. Et c'est deux nez de clown, quoi, qui sortent. Et on se dit, mais voilà, ça, c'est la liberté du chrétien. Et ça, c'est... Donc, faites attention... j'aime bien la soutane à cause de ça, mais l'important c'est de comprendre qu'il ne faut pas se figer à un habit, parce que c'est l'habit d'une époque en fait, la soutane, il n'y a pas qu'un seul habit, mais il faut avoir quand même quelque chose de distinctif. Si vous êtes dans votre substance différent, si vous voulez, il faut le témoigner. Et alors, pour votre métier, pour votre... Voilà, c'est comme ça que c'est pensé par les anciens. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on pense comme ça, je dis voilà comment penser le rapport de l'être et de l'avoir jusqu'au Moyen Âge, enfin voilà. Et les temps modernes vont apporter autre chose. Oui.
Aujourd'hui, les vêtements, ça désigne plus tellement le métier, ça désigne plutôt le genre de musique qu'on écoute.
C'est vrai. C'est ça, c'est des modes d'appartenance, des modes, c'est mes goûts. Sachant que mes goûts, en plus, sont largement déterminés, pas parce que je, voilà, voilà, par la mode. Enfin, pas, c'est pas des vrais goûts personnels souvent. Donc il y a, voilà, on est dans ce jeu-là. Deuxième remarque, hein, j'ai dit l'avoir fondamental, c'est aussi, on l'entend dans le mot, c'est aussi l'habitation, la maison. Vous vous souvenez que on avait dit qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Vous vous souvenez que ce que dit Aristote, c'est, il cite le vers d'Hésiode, est-ce que vous vous souvenez de ce vers ? Une maison ? Non, une maison, une femme. L'ordre est très important. Une maison, une femme et un bœuf de labour. Non. Très important l'ordre. Une maison, une femme et un bœuf de labour. Si vous n'avez pas de maison, il n'y a pas de famille. C'est un gros problème, la question des migrants. Ce n'est pas simplement de leur donner des logements où ils peuvent survivre. C'est, la question, c'est où est-ce qu'on peut avoir une maison, une vraie maison, une vraie demeure. La notion de demeure s'oppose à l'idée de migration permanente. On doit demeurer dans une demeure. Oui, Domiti.
Est-ce que l'habitat, c'est une extension de la vie ?
En tout cas, ça fait partie de l'avoir, donc y a un lien entre les deux. Sauf que l'habitat, on y est à plusieurs dedans. Ce que vous ne faites pas avec un slip, par exemple. Hein. Donc, ce n'est pas du tout de même nature. Et puis, en plus, l'habitat doit accomplir certaines tâches. Donc, la manière dont vous allez définir l'espace aussi va conditionner votre être. Donc, je reviens sur l'habit. Vous pouvez très bien dire, l'habit ne fait pas le moine. Vous êtes moine, vous portez un habit, mais l'habit... Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'être de l'homme étant un être qui est lié à son avoir, c'est très important qu'il ait un avoir qui lui rappelle son être. Vous voyez, l'habit est un appui pour que nous soyons ce que nous sommes. Si je m'habille n'importe comment, j'oublie que je suis moine. L'habit ne fait pas le moine, mais il lui rend des services, et au moins, il le protège, et il lui rappelle qui il est. Nous devons porter, du fait de ce rapport entre l'être et l'avoir, nous devons avoir un avoir qui nous rappelle notre dignité. Si on n'a pas ce rappel-là, eh bien, ça s'effondre, parce qu'on n'est pas des anges, parce qu'on ne se souvient plus, on oublie ce qu'on est. Il faut tout le temps nous le rappeler. Donc c'est pour ça qu'il y a ce lien avec l'avoir. Et quant à la demeure, quant à la maison, alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que ça prendrait toute une réflexion très longue et ample, mais savoir qu'est-ce que c'est qu'une demeure, qu'est-ce que c'est qu'une habitation proportionnée à l'être de l'homme. C'est le sujet d'ailleurs de Jean cette année dans son mémoire. Voilà, habiter, est-ce que c'est simplement se loger ? Habiter, qu'est-ce que ça veut dire ? À tel point que des philosophes comme Heidegger dira que habiter, c'est le cœur de l'activité humaine. Et il rappellera que le mot ethos, qui donne éthique, ne signifie pas d'abord comportement, mais manière d'habiter le monde. Quel est mon ethos ? Comment est-ce que j'habite le monde ? Et est-ce que si je suis dans une sorte de clapier fonctionnel, j'habite le monde? Ou est-ce que habiter le monde suppose un lieu qui est aussi en rapport, je dirais, avec le cosmos? Pensez à un mode d'habitat qui permet une ouverture, je dirais, écologique de l'être. Mais ce n'est pas l'écologie scientifique, c'est simplement déjà notre manière d'habiter le monde. Soit vous avez autour de vous des choses qui vous rappellent que vous êtes inscrit dans une nature, soit vous n'avez pas du tout. Et dans un monde complètement artificiel, où on a des logements, des appartements, c'est-à-dire des choses qui nous mettent à part, où l'habité social et l'habité cosmique sont mis à part. Donc on n'habite plus. On loge, mais il n'y a plus de véritable habitation. Donc, vous voyez, c'est une réflexion profonde aussi. Comment habiter le monde? Et alors, vous pouvez faire tous les cours d'anthropologie sur l'être de l'homme, sur l'essence de l'homme. Vous allez faire une très grande philosophie, mais la grande philosophie doit méditer sur qu'est-ce que c'est que le bon vêtement, qu'est-ce que c'est que le bon habitat. Sinon, ça devient une discipline intellectuelle, excitante, spiritualiste, et vous laissez le monde de l'avoir à son anarchie, à ses désordres. Et ce n'est pas ça, justement. Il faut ressaisir l'avoir. Alors, je voudrais, pour finir, prendre quelques textes qui vont un peu déployer notre pensée de l'avoir. Et le premier point que je voudrais aborder, c'est le rapport entre avoir et usage. C'est une question qui est abordée par Xénophon dans son Économique, livre très important, comme en témoignera Jacques bientôt. C'est son livre de chevet donc, en ce moment. Donc. Et il y a au début de l'économique, c'est l'oïkos, hein, on avait eu cours là-dessus, hein, c'est la famille au sens large, mais la famille est conçue comme ce lieu de double articulation, enfin le lieu d'articulation fondamentale, je vous l'avais dit, entre la culture et la nature. Que ce soit à travers la génération des hommes, culture-nature, c'est la sexualité, mais c'est aussi quelque chose qui est toujours assumé dans un mariage. Donc le lien de la culture et de la nature, c'est ça. Mariage, la famille. Mais la famille aussi, pour les anciens, est aussi un lieu de production et un lieu d'agriculture. L'agriculture est l'activité noble par excellence, hein, pour les anciens, à tel point qu'un roi, comme Cyrus, hein, ça insiste là-dessus beaucoup, Xénophon, pratique l'agriculture. Il ne ferait pas d'artisanat, hein, mais l'agriculture, oui. C'est digne d'un roi. Et donc, parce que la famille, l'oïkos, c'est le lieu où on reçoit le donné naturel et on l'accompagne dans une culture. Vous vous souvenez ça, hein? Donc, dans l'économie, en fait, l'économie, c'est la question de l'avoir, mais de l'avoir sur un mode familial. J'y reviendrai. Est-ce que le seul mode d'avoir, ce ne serait pas un mode plutôt familial? Est-ce que si on oublie la famille dans la notion d'avoir et qu'on la laisse au marché, est-ce qu'on n'est pas en train de défaire l'avoir? En tout cas, chez les anciens, l'économie, l'avoir est toujours lié à la question de la famille. Parce qu'on a en commun, pas simplement pour soi, aussi parce qu'on produit ce qu'on a dans une famille à travers l'agriculture, à travers le textile, à travers... Oui, et voilà, ça c'est l'enjeu fondamental, comprendre qu'est-ce que c'est que l'avoir chez les anciens. Alors il y a un moment où Socrate pose la question. Il dit, si tu as un truc chez toi, mais tu ne sais pas t'en servir, est-ce que tu l'as vraiment? Est-ce que tu possèdes la chose dont tu ne sais pas se servir? Vous voyez, Socrate dit, une flûte pour qui sait en jouer convenablement est un bien. C'est quelque chose, ici bien c'est au sens d'une possession, d'une richesse qu'on possède, on l'a. Mais pour qui ne sait pas, elle ne vaut pas plus que d'inutiles cailloux. Si on a une flûte chez soi et qu'on ne sait pas en user, eh bien est-ce qu'on peut dire qu'on l'a? Bon, on l'a peut-être à titre de bibelot, mais alors il faudrait justifier l'usage qu'on fait des bibelots, éventuellement. Mais voyez, l'avoir est toujours lié à l'usage. Si j'ai des choses dont je n'use pas, dont je ne sais pas user, eh bien, c'est comme si je ne les avais pas. Et ce sont des sortes d'excroissances, voire même d'encombrements, en réalité. Je vous propose quelque chose pour ce carême. Supprimons toutes les choses que nous avons dont nous n'usons pas. Ce serait extraordinaire. Oui. Beaucoup de choses qui partiraient. que vous pourriez donner, j'y reviendrai là-dessus à la fin, mais c'est quand même un point fondamental. Donc, voilà une des grandes remarques des anciens. Il faut savoir user des choses et je n'ai vraiment que ce dont j'ai l'usage. Tout ce dont je n'ai pas l'usage, je ne l'ai pas vraiment. Ce n'est pas un bien, ce n'est pas un avoir qui est en rapport avec mon être. J'ai peut-être un titre de propriété dessus, mais ce n'est pas un véritable avoir. Mais voilà que Critobule fait cette remarque à Socrate. Donc c'est le Socrate de Xénophon, hein, pas de Platon. Hein. Critobule dit « Oui, elle vaut rien, la flûte, parce qu'il ne sait pas en user. » Et il a cette phrase extraordinaire. Alors là, il faut se souvenir de cette phrase. C'est une phrase décisive pour comprendre le monde contemporain. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit « Oui, il ne l'a pas, à moins qu'il ne la vende. » Vous avez vu la définition de la vente ici? C'est l'usage de ce dont on n'a pas l'usage. Terrible. Oui, une flûte, je ne sais pas en jouer, mais je peux m'en servir comment? En la vendant. Alors Socrate, qui est malin quand même, lui répond, il dit, mais si on la vendait pour un objet dont on ne sait pas bien user, même vendu, elle n'est pas un bien. Est-ce que si vous la vendez, vous gagnez quoi en retour? Quel est l'objet? L'argent. Il dit, bon alors d'accord, en échange de ta flûte, tu vas avoir de l'argent. Mais là encore, la question se pose. Est-ce que tu sais user de l'argent? Tu as l'air de dire, Socrate, que l'argent non plus n'est pas un bien pour qui ne sait pas en bien user. Alors là, on est dans une page vraiment... C'est très simple, hein, mais c'est très profond. Quel est le vertige? On retrouve un peu ce qu'on avait dit à propos de la consommation tout à l'heure. Et on retrouve à travers le commerce, la vente. C'est que, ce qu'on voyait très bien dans l'échange de Paul Claudel à travers le personnage de Thomas Pollock Nageoire, vous voyez, hein, il dit « je prends, je vends », il ose dire « je n'ai rien, tout file entre mes doigts ». Mais tout file entre mes doigts, mais tout passe par mes mains. Et c'est ça, vous voyez, le vertige. C'est que je peux user de tout quand je vends, parce que je peux tout vendre. J'use de tout sans savoir user de rien. Je peux vendre une flûte, je peux vendre un cheval, je ne sais pas jouer de la flûte, je ne sais pas monter à cheval. Je peux vendre des livres de philosophie, je ne suis pas philosophe. Je peux vendre des femmes. C'est bien le signe que je ne suis pas époux. Donc vous voyez, il y a cette logique où la vente est une manière, vous voyez, d'avoir l'impression qu'on a le monde précisément en même temps que ça nous échappe. Tout passe par nos mains, tout peut être vendu, mais à ce moment-là, si tout est ordonné autour de la vente et de l'argent, comme le monde contemporain, voyez, je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, c'est une comparaison avec la pensée des anciens, au Moyen-Âge, la catégorie du marchand est la plus basse catégorie sociale, parce que le marchand ne produit rien, et que l'agriculteur est très au-dessus non seulement du marchand, mais même des artisans. Imaginez aujourd'hui où la paysannerie a été détruite par le monde de l'argent et de la technocratie. Alors que pour les anciens, la paysannerie est fondamentale. Et c'est ce qu'il y a de plus noble. Donc on a renversé la hiérarchie des métiers parce que la paysannerie, c'est ce qui permet le premier avoir, les nourritures. Le premier avoir de la famille, parce que j'ai des enfants, il faut les nourrir. Vous voyez, premier avoir, c'est fondamental. Et l'autonomie alimentaire, c'est la première autonomie. Ce n'est pas d'avoir des iPhones ou des choses, ça, on s'en moque. Eh bien, on a tout renversé. Et ce qui est devenu la catégorie suprême du métier, c'est la haute école de commerce. Le monde passe entre vos mains, mais vous ne savez pas l'usage des choses. Vous ne savez pas l'usage des choses. Et ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Donc, le fondement de l'avoir, c'est l'usage. Et je vous avais fait une remarque, si vous savez user, vous progressez personnellement. Si vous ne savez pas user, c'est les objets qui vont progresser à votre place. C'est le principe de l'innovation aujourd'hui. Vous savez, vous passez d'un calame à une plume d'oie, de la plume d'oie au stylo bille, du stylo bille à la machine à écrire, de la machine à écrire au traitement de texte, du traitement de texte, vous voyez, à la dictée Siri sur votre iPhone, etc. Et donc, vos objets ont progressé, mais est-ce que vous êtes capable d'user d'une plume? User d'une plume, ça veut dire être capable de faire tout ce qu'on peut faire avec une plume, c'est-à-dire écrire comme Virgile, par exemple, ou comme Platon. Non, vous ne savez pas user. Les choses se multiplient. On est dans ce monde, comme je vous l'avais dit, de demi-avoirs, de faux avoirs, parce qu'on ne sait pas user. Tout ce que vous pourriez faire avec une feuille et un stylo, si vous usiez vraiment de la feuille et du stylo, imaginez le monde qui s'ouvre devant vous. Éléonore ? Oui, vous voulez dire. Oui, bien sûr, mais c'est très intéressant. Effectivement, parce que le fondement de l'avoir est dans l'usage, vous pouvez dire oui, pourquoi est-ce que j'ai une bombe atomique si je ne l'utilise pas, à la limite bon.
Oui, donc il faut. Voilà. Et puis après, il y a une impression à partir du moment où on a créé une technique.
Il faut l'employer. Je comprends. Alors, d'abord, il faut montrer que toute cette inflation technologique vient d'une perte de l'usage. Vous comprenez ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, mais ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, on y reviendra.
C'est la dissuasion.
Alors oui, alors on dit on en use comme force de dissuasion pour l'arme atomique. Mais ça reste encore aussi une vraie question. Est-ce que jusqu'où peut-on pousser si on s'arme jusqu'aux dents? Voilà, c'est pour ça qu'aussi on veut dénucléariser aussi. Il y a aussi l'idée de limitation de l'armement. Mais il y a aussi une autre chose qu'on verra par la suite, c'est la distinction entre usage et utilisation. Voilà. Ce n'est pas la même chose. L'usage relève d'un savoir-faire, de la techné, alors que l'utilisation relève de la technologie. Et en réalité, le progrès technologique, qui est un progrès dans l'utilisation et dans l'usure même des choses, n'est pas un progrès dans l'usage. Ce n'est pas un progrès technique. Ce n'est pas un progrès dans l'art, dans les savoir-faire. Les savoir-faire disparaissent et sont liés à des sciences appliquées. Voilà. Donc, il faut faire attention, la remarque que vous faites implique une distinction et c'est pour ça que c'est une remarque judicieuse. Encore une question et puis après, il faut que j'achève. Non, c'est important ?
Oui.
Pardon ? D'accord. Alors, deuxième remarque, est-ce que c'est moi, donc j'ai avoir et usage, deuxième remarque, est-ce que c'est moi qui ai ou c'est moi qui suis eu ? On peut parler comme ça, non ? Est-ce que j'ai ou est-ce qu'on m'a eu? Est-ce que j'ai ou est-ce qu'on m'a eu? C'est une grande question. Est-ce que je possède ce que je possède ou est-ce que ce sont les objets que je crois posséder qui me possèdent? Deuxième question, un véritable avoir, c'est un avoir qui non seulement est proche de nous, mais en même temps, qui n'est pas une idole. Et c'est la remarque de saint Ambroise dans un texte sur lequel je vais revenir, ce texte prodigieux qui a été ressorti d'ailleurs en italien, j'ai vu, et le pape François a dit « Vous devriez lire pour le carême le texte de saint Ambroise sur la vigne de Naboth, Naboth le pauvre, un passage du Livre des Rois. » À propos des riches qui ont trop, etc., et qui sont pris dans... Et il dit, en fait, ils n'ont pas. Ils croient posséder, mais ils n'ont pas. Parce que vous voyez, ce ne sont pas eux qui possèdent leur richesse, mais leur richesse qui les possède, eux. Donc, ce n'est pas qu'ils ont, c'est qui ils... Voilà, on les a eus.
Ça dépend de l'envie qu'ils ont.
Ah oui, mais derrière cette envie, quelle est la nature de cette envie? C'est ça aussi. Et la question, c'est la richesse, est-ce que c'est quelque chose qui permet le déploiement de mon être? Donc le véritable avoir, ou alors, et c'est là où se fait le renversement. Quiconque en effet n'use pas, et on retrouve la phrase, hein, D'ailleurs, c'est au singulier, c'est pas au pluriel. Quiconque, en effet, n'use pas de son patrimoine comme d'une possession et ne sait pas distribuer largement aux pauvres est le méprisable esclave de ses biens au lieu d'en être le maître. Être maître de ses biens, c'est savoir en user et même être l'intendant des pauvres, puisque tout ce dont je n'ai pas vraiment l'usage ou tout ce qui est au-delà d'usage personnel, familial, etc., pour les miens, eh bien, je dois. Vous voyez ? Et c'est là que je suis possédant, vraiment. Parce que je suis le maître de mes biens aussi. Sinon, je ne possède pas, c'est moi qui suis possédé. Si j'ai ma petite cassette, vous voyez, et que je veux la garder, et puis il y a des gens qui meurent à ma porte, est-ce que c'est moi qui possède mon argent en faisant ça, en ne donnant pas ? Ou alors, est-ce que c'est mon argent qui me possède ? C'est mon argent qui me possède. Donc, le véritable avoir, c'est un avoir dont on est toujours le maître. Alors, on retrouve d'ailleurs cette question fondamentale qui m'a été posée d'ailleurs tout à l'heure par Isabelle quand j'évoquais le cours précédent en aparté. Est-ce qu'on a vraiment que ce dont on hérite ? Vous avez parlé d'un avoir de type familial. On pourrait revoir la question de la vigne de Naboth. Vous connaissez cette histoire de Naboth,
ouais.
Le pauvre ? Alors,
elle vient de passer dans les...
voilà, dans les lectures de semaine. Naboth a une vigne, et cette vigne se trouve en face du palais du roi Akab. Akab se dit que ce serait quand même pas mal, puisque c'est bien situé, d'avoir cette vigne pour s'en faire un jardin d'agrément, sa vigne personnelle. Donc il va voir Naboth et il lui dit, voilà, je te propose pour cette vigne un bon prix, donc de l'argent, ou alors, si tu veux, même un grand, je choisis les termes exprès, un grand espace viticole à distance, mais ailleurs, voilà. Tu as le choix entre les deux. Et Naboth dit, non, jamais je ne te céderai l'héritage de mes pères. Beau cette phrase. Jamais je te céderai l'héritage de mes pères. Alors Akab rentre, il est pas content parce que celui qui est possédé par ses richesses, il est jamais content de ce qu'il a. Et ouais, c'est ce que je dis, l'avoir. Il a rien en fait. Il croit qu'il a, mais il a rien. Et donc il va pas bien parce qu'il a pas cette petite vigne, alors qu'il a tout le reste. Enfin bon, non, ça y est pas. Et Jézabel lui dit, écoute, on va faire un procès de Naboth et puis on va le faire tuer. Puis tu Hein, on va récupérer la vigne. Et Akab, bien sûr, parce que vous savez, c'est les femmes à l'époque qui font vraiment la politique sur l'oreiller, contrairement à ce qu'on croit. Maintenant qu'elles sont, elles sont devenues des pseudo-tribuns, etc., elles font beaucoup moins, parce qu'elles imitent les hommes. Donc elles n'ont même plus leur vrai pouvoir féminin. Bon. Donc à l'époque, voilà, c'est Jézabel hein, qui tient le royaume. Ça, on sait bien, c'est Jézabel. Elle dit, voilà, maintenant tu vas faire ça. Et alors, il y va, Akab, voilà, il est toujours ce type un peu veule, entraîné par la dure et méchante Jézabel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « je ne te céderai pas les... » Parce qu'il pouvait avoir plus d'argent, il pouvait avoir un grand espace. Pourquoi est-ce que, vous voyez, il ne cède pas l'héritage, il ne cède pas la vigne. Et la question qui se pose ici, c'est est-ce qu'on peut avoir ce que l'on achète ? C'est une question qui m'a été posée. Est-ce que acheter suffit à avoir quelque chose ? Et on comprend à travers Naboth ce qui se joue ici. Ce qui se joue ici, c'est de dire ce que j'ai vraiment, profondément, c'est d'une certaine façon ce qui m'échappe trois fois. Pourquoi trois fois ? Parce que d'une part, c'est l'héritage de mes pères, j'en ai hérité. Donc en fait, c'est à moi... Vraiment parce que voilà, je suis le successeur, l'héritier de quelque chose, d'une histoire qui est bien la mienne, qui n'est pas substituable à celle d'un autre. Mais c'est à moi en tant que ça a appartenu d'abord à mes pères. Vous voyez, c'est ça que je dis, ça m'échappe. Deuxièmement, m'appartient que ce dont aussi j'ai pris soin, ce à quoi j'ai mêlé mon histoire. Et vous voyez, Naboth, il a pris soin de cette vigne. Vous voyez, par rapport au passé, c'est un héritage, par rapport au présent, c'est un soin, c'est une culture. De telle sorte que j'ai vu, Imaginez, Naboth, il a vécu avec sa femme ici, il s'est occupé, il a fait les bourgeonnages, les vendanges, il était avec sa femme, avec ses enfants, peut-être ses enfants sont partis de la maison, mais cette vigne est chargée de souvenirs, est chargée de son histoire, de ses soins journaliers. Et c'est dans ça, vous voyez, il y a mêlé son propre corps, sa propre sueur, sa propre vie. Et troisième chose, je n'ai aussi, donc vous voyez, je n'ai que ce dont j'hérite, ce dont je prends soin et que ce que je peux léguer à mes enfants. Et il y a aussi cette dimension héritage, travail et legs. Et ça, c'est la chose que j'ai vraiment. Vous voyez, ça, c'est la profondeur de l'avoir. Et maintenant, aujourd'hui, vous pouvez dire, mais quels sont les avoirs contemporains qui correspondent à ça ? Est-ce que j'ai hérité d'un meuble de famille ? J'ai des meubles IKEA. Est-ce que je prends soin de quelque chose ? Non, je consomme, je prends, je jette. Et est-ce que j'ai un leg ? Je ne peux rien léguer. D'abord parce qu'on est dans une culture de l'innovation. Donc a priori, mes enfants vont vivre dans un monde qui n'est plus du tout le monde d'aujourd'hui. Ouais, ça, l'innovation, le futur, l'innovation disruptive. Donc, je n'ai rien à transmettre. Comme je n'ai rien à transmettre, je laisse mes enfants jouer à la PlayStation, vous voyez, parce que je n'ai rien à leur apprendre. Voilà. Vous voyez, c'est ce que j'ai vraiment, c'est ce que j'ai reçu d'une tradition, de mes pères, c'est ce que je cultive actuellement et c'est ce que je peux donner. Et ça, c'est la vérité de l'avoir. C'est la vérité profonde de l'avoir. Et là, nous mesurons à quel point nous sommes dans un monde où nous n'avons plus. Et c'est pour ça que nous cherchons, on dit à avoir toujours davantage, mais parce que rien jamais ne suffit. Parce que rien jamais n'atteint la vérité, l'identité, l'essence profonde d'un avoir en accord avec l'être de l'homme, qui reçoit, qui assume et qui donne. Alors, question pour conclure.
Est-ce que ça peut être immatériel ?
Ça peut être immatériel, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans un monde d'hyper-technologie, de destruction des patrimoines, de destruction des héritages dynastiques, on en sait quelque chose ici, dans ce monde, la dernière chose qui reste et qui correspond vraiment à cette structure, c'est souvent l'héritage religieux. C'est-à-dire que la transmission, ça devient, c'est celui de la parole, de la langue, mais aussi, qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai reçu la foi, je la cultive et je pourrais laisser ça. Et ça, je sais que ça durera, quel que soit le monde technologique, les changements, les pertes de propriété, les pertes de... Donc voilà, c'est un point vraiment fondamental de voir, ça peut être immatériel. Mais attention, jamais rien d'immatériel chez l'homme n'est pas aussi matériel, parce que ça prend des formes forcément qui s'incarnent dans la chair, dans le corps, dans des objets, le chapelet qui m'a été légué, les églises qui sont là, qui demeurent, qui sont presque les seuls bâtiments à demeurer et à rester dans cette structure traditionnelle, presque les seuls. Qu'est-ce qu'il y a autour ? Tout ne cesse de changer, d'être renouvelé, d'être transformé en World Trade Center, qu'on dévaste, qu'on reconstruit. Bon, voilà, c'est ça le monde présent. Alors, on va s'arrêter ici parce qu'on doit aller maintenant, justement, dans le lieu du plus grand avoir. C'est ce qu'on a. Ouais, on reçoit, on recueille et on donne.